Comme chaque mercredi à 17h30, vous avez rendez-vous avec le magazine Lille 1 Info, le magazine consacré à l'université de Lille 1, à ses formations, à ses recherches, à tout ce qui s'y passe. Bref, c'est Lille 1 Info sur Radio Campus 106.6 FM, www.campuslille.com si vous habitez un peu plus loin. Si je vous dis biomasse, ça vous dit quelque chose ? Non ? C'est peut-être un peu normal, hein ? Et si je vous dis biodiversité, si je vous dis biocarburant, si je vous dis bio, là, ça va déjà mieux ? Bon. On va faire un petit peu le point sur tout ça avec notre invité. Il s'appelle Franck Duménil, il est professeur à Lille 1. Bonjour Franck Duménil.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
Donc on va aujourd'hui aborder un concept, mais aussi une réalité de plus en plus nécessaire peut-être, c'est à vous de faire le point, sur ces recherches qui ont lieu actuellement autour de la biomasse, sur les enjeux d'avenir également. Donc tout d'abord, est-ce qu'il y a une définition pour biomasse ?
Alors effectivement, pour la biomasse, on trouve plusieurs définitions qui dépendent du lieu où est née la définition, qui dépend aussi des intérêts des personnes qui ont fait la définition. Mais en Europe, on trouve une définition globale de la biomasse qui est un petit peu complexe, donc je vais un peu la simplifier. La biomasse, d'après la Commission européenne, c'est la partie biodégradable des produits, des déchets de l'agriculture. Ça inclut les végétaux et les substances animales. Donc dedans, on trouve tout ce qu'on peut avoir dans l'aquaculture, c'est-à-dire les algues, par exemple. Aussi, toute l'industrie forestière, donc le bois, etc. Mais aussi des choses un petit peu plus exotiques, je dirais, comme les boues. Et on a vu dans l'actualité, il n'y a pas longtemps, un écoulement de boue rouge. Et ça, c'est considéré aussi comme de la biomasse. Mais en principe, lorsqu'on est dans ce champ de recherche pour les bioraffineries, on considère bien plus la biomasse végétale, c'est-à-dire les arbres, les algues, etc. Donc tout ce qui est pour nous des végétaux.
Donc cette biomasse, maintenant on en parle, mais avant elle existait déjà, elle était déjà un peu exploitée par exemple par les fermiers ou par les gens, les paysans, les gens qui habitaient à la campagne.
Tout à fait, la biomasse, ça n'est pas nouveau. La biomasse, ça a toujours existé. Les plantes sont créées grâce à l'énergie solaire, par la photosynthèse. Ensuite, ces plantes peuvent être transformées en pétrole, ça prend énormément d'années, en pétrole ou en charbon ou en gaz naturel. Et depuis les temps anciens, on a développé l'agriculture. Donc la biomasse, on l'utilisait pour manger déjà, donc les animaux par exemple, aussi les végétaux. Pour se chauffer, il suffit de brûler du bois pour avoir de l'énergie pour le chauffage. Mais aussi pour des applications un peu plus évoluées, par exemple au temps des Romains, on brûlait des arbres, on récupérait les cendres qui étaient riches en métaux alcalins. On savait aussi extraire de l'huile, donc de l'huile d'olive par exemple, et on faisait réagir ces cendres, c'est-à-dire on mélangeait ces cendres avec l'huile pour faire du savon. Donc on ne connaissait rien à la chimie, mais on savait qu'en mélangeant, on obtenait du savon. Ensuite est venue l'industrie du pétrole, qui a remplacé ce qu'on faisait à partir de la biomasse. Et puis récemment, on s'est rendu compte qu'on n'aurait plus beaucoup de pétrole dans un certain temps, ni beaucoup de charbon. Et donc, on revient à la biomasse, mais d'une manière beaucoup plus fine et évoluée grâce aux nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à brûler du bois, on va faire autre chose avant.
C'est vrai que autrefois, enfin quand je dis autrefois, à l'échelle de millénaires, on va dire, quand on brûlait du bois, il se passait pas forcément grand-chose pour l'environnement. Maintenant, on est quand même un peu plus nombreux sur Terre. Est-ce que ça joue ?
Oui, il y a un effet d'échelle. Effectivement, si on se mettait tous à brûler du bois pour se chauffer, très vite, on aurait un problème forestier avec une très grande déforestation. Donc, il y a quand même des stratégies globales, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas la biomasse sans réfléchir. Il faut que ça soit durable. Et donc, si on décidait un jour, à un endroit donné du globe terrestre, de n'utiliser que le bois issu des forêts pour se chauffer. En même temps, on aurait une politique de forestation, c'est-à-dire de planter suffisamment d'arbres de manière suffisamment rapide en considérant leur croissance pour que ça soit un procédé viable et durable et qu'on se trouve pas un jour sans forêt.
Voilà, donc l'utilisation ou l'exploitation de la biomasse, ça passe aussi par sa régulation, c'est-à-dire par la régénération de cette matière, on va dire, première.
Voilà, il faut absolument que ça soit durable. Dans un laboratoire comme sur le campus ici à Lille 1, donc dans mon laboratoire, on transforme des molécules issues de la biomasse, c'est notre matière première. Mais en même temps, quand on développe un concept de bioraffinerie, ce qu'on fait aussi, on est obligé de considérer l'approvisionnement et la durabilité de l'approvisionnement. Ça passe donc par une optimisation des surfaces cultivées, une vérification des rendements de culture pour voir si c'est compatible avec des procédés chimiques qu'on ferait derrière, c'est-à-dire savoir si on a suffisamment de végétaux pour développer la chimie et les transformations chimiques derrière. Et je rebondis un peu aussi sur cette remarque, c'est suffisamment de végétaux pour les besoins industriels, tout en s'assurant de l'intégrité alimentaire pour les populations. Il ne s'agit pas de prendre les végétaux uniquement pour faire de l'industriel.
Alors, on va parler de votre laboratoire qui s'appelle l'UCCS, ça veut dire quoi en clair?
Alors, l'UCCS, c'est un acronyme qui veut dire Unité de Catalyse et de Chimie du Solide. Donc les catalyseurs, on les connaît tous dans la vie courante, par exemple pour ce qui est des pots catalytiques qui retraitent les gaz d'échappement des véhicules, mais ce sont des solides qui servent à faire tout un tas de réactions de la vie courante, et on considère que 80% des produits manufacturés dans le monde font appel à au moins un catalyseur pour leur fabrication. Et la chimie du solide, c'est le design de solides pour des besoins par exemple d'énergie ou pour le nucléaire, etc. Donc c'est aussi le design de catalyseurs, parce que les catalyseurs peuvent être hétérogènes, c'est-à-dire des substances solides sur lesquelles on fait des réactions, par exemple.
Alors, Franck Duménil, pendant que vous êtes là, j'en profite. Certains, pas forcément écolos, mais peut-être d'ailleurs, critiquent l'utilisation des biocarburants en disant ce qu'on produit comme biocarburant, c'est autant de moins que les gens ont à manger sur Terre. Est-ce que c'est vrai?
Alors, ça, c'est vrai en partie, et il faut faire très attention à ça. Et la personne qui va faire de l'élaboration de procédés de bioraffinerie doit absolument prendre en considération ce facteur. Donc si on prend l'exemple que vous avez soulevé des biocarburants, on connaît tous l'éthanol qui est utilisé en mélange dans les carburants. Donc il y a deux générations d'éthanol. La première génération d'éthanol, c'est quelque chose qui est fait depuis l'Antiquité. Par exemple, pour faire du vin, on sait très bien qu'en faisant fermenter du raisin, on va obtenir de l'alcool, et en l'occurrence de l'éthanol. Donc c'est une technologie très ancienne. Donc cette technologie est basée sur la conversion des sucres, en fait, donc quelque chose qui est alimentaire. Mais la deuxième génération utilise une matière qui n'est pas utilisée par l'homme pour ses besoins alimentaires, qui est la matière cellulosique. Donc ça devient un petit peu complexe, mais c'est une matière, ce sont en fait les fibres qui restent dans les aliments. Et ça, on sait maintenant le transformer, ça a demandé des technologies un peu plus poussées, et ça n'est pas en concurrence avec l'alimentaire. Maintenant, on peut aussi avoir d'autres façons de ne pas être en concurrence avec l'alimentaire, mais on y reviendra dessus un peu plus tard si vous le désirez.
Alors, c'est vrai que, bien sûr, ne pas prendre des aliments pour les transformer, mais il y a aussi utiliser les surfaces cultivables.
Oui, en effet. Donc, on est obligé de cultiver les plantes destinées à l'industrie quelque part, sur des surfaces. Donc, par définition, ce sont des surfaces cultivables. Mais cultivables, pourquoi? Donc, il y a plusieurs qualités de terrain. On peut avoir plusieurs stratégies. Il y a des terrains sur lesquels presque rien ne pousse, sauf certaines plantes qui ne sont pas alimentaires. Donc on peut utiliser ces terrains pour faire pousser des plantes pour les besoins industriels. La deuxième chose, c'est que on peut aussi faire des projections dans le futur sur la rentabilité des cultures alimentaires. Et on sait qu'en Europe, vers 2030, on arrivera à un doublement du rendement qui permettra de libérer des surfaces cultivables pour faire autre chose. Ça, c'est une deuxième stratégie. Et il y a la troisième stratégie que nous développons aussi dans mon projet, qui est une stratégie de rotation de culture. Donc les rotations de culture, c'est quelque chose qui a toujours existé, qui est bien connu des agriculteurs, mais en l'occurrence, on les adapte pour nos besoins. C'est-à-dire, si vous faites une culture alimentaire, prenons du blé par exemple, hein, du blé pour l'alimentation, votre sol peut s'appauvrir en éléments nutritifs. Mais il existe des plantes non alimentaires qui, lorsqu'elles sont plantées, augmentent la quantité de nutriments, comment dirais-je, de substances utiles aux plantes dans le sol et aussi détruit les parasites qui sont dans le sol. Et donc le jeu ici consiste aussi à faire des rotations de culture. Une année, on fait une culture alimentaire de blé, par exemple. La deuxième année, sur certains sols, on fait une culture non alimentaire industrielle qui va permettre d'accroître la qualité du sol. Et ainsi, l'année suivante, quand on refera une culture de blé, on aura un rendement bien meilleur. Donc là, au contraire, c'est une synergie qui peut exister entre les deux types de cultures. Et bien entendu, tout est à optimiser, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais on a des moyens de faire cohabiter les deux cultures sans gréver la productivité alimentaire.
Et tout ça sans OGM ?
Alors oui, dans le projet que je défends, c'est sans OGM. On peut aussi effectivement faire appel aux OGM, mais je ne suis pas partisan de ce genre de technologie, mais on peut aussi utiliser des variations de plantes. C'est-à-dire que les plantes qui sont actuellement cultivées sans OGM, par exemple le blé, a fait quand même l'objet de recherches intensives. On a pris des espèces de blé. Alors, je ne suis pas spécialiste de biologie, mais j'ai les bases à ce niveau-là et je pense que tout le monde est au courant. C'est qu'on peut trouver des variétés de blé plus résistantes, plus productives, juste en sélectionnant au fur et à mesure à chaque culture les plantes qui auront donné les meilleurs résultats et en faisant des hybrides sans toucher à la nature génétique.
Alors, je pense que dans les réflexions et dans les pratiques, il y a des choses qui commencent à s'installer. Par exemple, le recyclage. On recycle verre, on recycle plastique. On ne recycle pas les déchets alimentaires et ces choses-là. Est-ce que ce serait envisageable ou intéressant ?
Oui, ce serait intéressant. Donc, on les recycle en partie tout de même, parce que certaines personnes font du compost dans leur jardin, par exemple. C'est une manière de recycler et de réutiliser la biomasse, hein, parce que finalement, ces déchets alimentaires sont de la biomasse. Il y a une deuxième chose qui est faisable. Par exemple, on sait très bien qu'avec les huiles de friture, on peut faire du biodiesel moyennant purification et transformation chimique. Ici, le problème n'est pas tant de réutiliser les déchets alimentaires, c'est de les collecter et de les mettre à un point de traitement. Parce que ça peut être très coûteux de transporter 5 litres d'huile à partir de chaque maison dans toute une ville vers une usine qui va les transformer en globalité. Donc c'est faisable. Mais en gardant à l'esprit que l'aspect logistique, c'est-à-dire le transport et le coût du transport, non seulement le coût financier mais énergétique, peut avoir une influence sur le bilan environnemental global.
Est-ce qu'il y a une différence pour vous entre une huile, j'allais dire, de consommation courante et une huile de moteur ?
Oui, il y a une différence. Parce que, en fait, ce qu'on appelle huile, ça regroupe de nombreux composés au niveau chimique. Donc, une huile alimentaire, c'est ce qu'on appelle un triglycéride. Donc, ça devient compliqué, mais c'est un type d'huile. Une huile de moteur, ça peut être une paraffine. Ce sont des composés chimiques très différents qui ont des propriétés physiques assez comparables.
D'accord. Quand on mélange l'un dans l'autre pour faire croire que c'est l'un, ça pose parfois des problèmes dans certains pays. Hein. Donc,
<Oui. rire>
ça arrive. Hein. La Russie, par exemple, et en Chine, il s'est passé aussi des choses dans ce domaine où on a vendu de l'huile frelatée de moteur à la place de l'huile de consommation courante. Ça finit par rendre des gens un peu malades.
Oui, tout à fait, parce que la conception des huiles est complètement différente et ne répond pas à des critères alimentaires pour les moteurs, bien évidemment.
Voilà, donc on va dire aussi que nous sommes en France ou en Europe ou dans les pays occidentaux, boostés par le développement de grands pays comme l'Inde et la Chine qui, eux, ont besoin de davantage de ressources et donc on va commencer à vraiment devoir partager et trouver de nouvelles solutions. Est-ce que vous êtes sur cette dynamique et sur cette réflexion d'équilibre global planétaire ?
Oui, tout à fait. Pour plusieurs raisons. Donc le projet de bioraffinerie qu'on défend ici à Lille est un projet au niveau européen, sachant qu'on doit prendre en considération tout le reste du monde. Il n'est pas, c'est hors de question de ne pas avoir de considération mondiale. Ne serait-ce que quand on regarde les protocoles de Kyoto ou les conférences de Copenhague, on a une dynamique globale. Donc vous mentionnez par exemple la Chine. Effectivement, la Chine va avoir besoin de beaucoup d'énergie pour se développer. Avoir besoin de beaucoup d'énergie, ça veut dire émettre beaucoup de CO2 et donc ne pas être en accord avec les protocoles de Kyoto et tous les autres protocoles pour la protection environnementale. Donc la Chine a une chance qui est un peu aussi une malchance au point de vue environnemental, c'est de posséder énormément de ressources de charbon. On ne peut pas empêcher les pays un peu moins développés, je dirais, hein, sans être péjoratif du tout, de vouloir accéder à un niveau de confort équivalent au nôtre, donc on ne peut pas les empêcher d'utiliser l'énergie. Par contre, on peut les aider, et aussi les aider à développer les énergies issues de la biomasse. Donc vous avez aussi cité l'exemple de l'Inde, c'est un peu confidentiel, mais dans le projet que je dirige, on a aussi des liens, par exemple avec l'Inde, parce qu'ils possèdent des plantes que nous n'avons pas en Europe, qui sont des plantes non alimentaires et qui sont d'un intérêt très grand pour faire de la chimie derrière. Ils savent très bien les cultiver, donc pour eux ça sera rentable aussi. Et bien entendu, ensuite on peut leur fournir les molécules issues des plantes qu'on a utilisées. Donc c'est un équilibre mondial global. Et de toute manière, si on prend la biomasse par rapport aux produits pétroliers, les produits pétroliers, on les trouve qu'à certains endroits. La biomasse, on peut la faire pousser un peu partout. Ça ne sera pas le même type de biomasse suivant les saisons et suivant les lieux du globe. Mais là où il y a des surfaces cultivables, il y aura un développement de procédés de bioraffinerie plus ou moins évolués. Et il faudra faire cohabiter tout ce monde.
Alors, c'est vrai que pour les deux grands pays qu'on vient de citer, il y a aussi un intérêt économique et de survie, on va dire, d'une manière générale, à trouver des solutions adaptées. Est-ce que les étudiants de ces pays sont intéressés par vos recherches? Est-ce qu'ils s'y investissent? Et est-ce que pour le retour dans le pays, ça peut amener un plus?
Oui, complètement. Alors, je suis pas le spécialiste des statistiques de l'île 1, mais je crois qu'à l'île 1, on a plus de 60% d'étudiants étrangers déjà. Si on prend le cas du laboratoire du CCS où je travaille, on a vu une augmentation énorme du nombre d'étudiants étrangers qui veulent faire une thèse, et notamment des Indiens et des Chinois. Alors effectivement, nous les éduquons par rapport aux nouvelles technologies que l'on développe. Et l'intérêt est aussi de garder un certain savoir-faire qu'ils vont emporter chez eux, bien entendu, mais qu'ils vont garder en coopération avec nous, puisqu'on crée des liens aussi avec ces pays-là au travers de ces étudiants qui sont formés à ces toutes nouvelles technologies de pointe.
Donc l'UCCS, on peut peut-être rappeler combien de personnes travaillent, combien de chercheurs, comment oui. Ça se passe aussi économiquement, comment ça se développe, comment ça vit et ça se développe.
D'accord. Donc l'UCCS, il y a environ 129 permanents, dont 90 chercheurs et enseignants-chercheurs. Au niveau doctorant, il y en a pratiquement 90. Ensuite, il faut considérer aussi les étudiants en post-doctorat. Il y en a plus d'une vingtaine, je dirais, j'ai pas les chiffres exacts. Et aussi les étudiants en stage de M1 et M2. Donc ça fait énormément de monde. Si on considère les permanents et les non-permanents, on doit être largement au-dessus de 250 personnes. Alors comment un laboratoire vit financièrement? Donc la recherche, c'est bien évidemment très coûteux. En chimie, on doit acquérir des équipements extrêmement chers. Mais on a plusieurs mécanismes pour avoir de l'argent. Déjà, l'université nous aide financièrement, mais nous avons aussi des aides de la région et aussi des aides de l'État au travers des programmes dits ANR, donc c'est l'Agence Nationale de la Recherche. Nous faisons des projets de recherche qui doivent répondre principalement à des thématiques plutôt sociétales, bien qu'on puisse aussi proposer du fondamental. Autrement dit, il faut faire quelque chose d'utile pour la société, mais on peut toujours garder un pied dans la science fondamentale qui aura des impacts bien plus loin dans l'avenir. Et on a aussi encore un autre mécanisme, il y a encore beaucoup d'autres mécanismes, mais je vous cite les principaux, qui sont les contrats européens, et notamment le contrat que j'ai obtenu de l'Europe pour développer une bioraffinerie où on a un budget de 38 millions d'euros, dont une subvention de 23 millions d'euros à distribuer entre les partenaires du projet, dont l'UCCS est le chef de projet.
Alors, bioraffinerie, elle va être implantée quelque part ou c'est secret ?
Alors, ce n'est pas secret. Ce n'est pas secret, mais faire une bioraffinerie, c'est extrêmement complexe. Si on regarde le temps de développement qu'il a fallu pour créer les pétro-raffineries, donc les raffineries classiques, on se rend compte que ça a pris beaucoup d'années. Donc la bioraffinerie, ça va pas naître très rapidement. De plus, ce sont des bioraffineries qui vont naître, tout simplement parce que, par exemple, si on prend le cas de l'Europe, dans le nord de l'Europe, vous avez beaucoup de forêts, donc c'est à partir des forêts qu'on pourra faire quelque chose. Dans le sud, c'est plutôt des oléagineux, donc ce seront des molécules, des huiles qui serviront de base à la chimie. Et donc, pour chaque endroit où on va implanter une raffinerie, il y aura un type de bioraffinerie. Ensuite, quant à savoir où exactement elles seront implantées, ça, ce sont aussi des résultats de l'étude qui nous le diront. Tout simplement parce qu'il faut considérer les endroits où il y a la biomasse, quelle biomasse, s'il faut la transporter, sur combien de kilomètres on peut la transporter pour la rassembler. Et donc, il y a tout un tas de paramètres qui font que rien que trouver l'endroit optimal du point de vue énergétique, transport et approvisionnement en biomasse, c'est déjà complexe. Donc, pour le moment, je ne peux pas vous donner de réponse précise, mais à l'issue des 4 ans du projet, donc en 2014, on aura déjà des démonstrations de taille réelle à des endroits donnés. On a quand même des idées, hein, je vais pas vous mentir, on a certaines idées, mais on trouvera aussi d'autres endroits, sans aucun doute, où on pourra faire des démonstrations et proposer des constructions.
Alors, dans le Nord-Pas-de-Calais, est-ce qu'il y a une spécificité de ressources qu'on pourrait éventuellement utiliser, ou bien est-ce que c'est exclu ?
Alors, dans le Pas-de-Calais, il y a déjà un type de bioraffinerie qui existe, hein, c'est la société Roquette, qui est basée sur l'amidon, donc les composés issus principalement des pommes de terre. Mais on peut aussi, dans le Pas-de-Calais, tirer parti des autres cultures. Malheureusement, pour le moment, c'est plutôt des cultures alimentaires. Mais rien n'empêche de faire une cartographie du Pas-de-Calais. D'ailleurs, on est en train de faire une cartographie de toute l'Europe, du point de vue climat et biomasse, pour ensuite faire des cultures données et faire une bioraffinerie derrière. Tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait mettre la bioraffinerie à un endroit précis, là où il y avait la biomasse. Mais contrairement au pétrole, on peut aussi créer soi-même la source de biomasse à un endroit donné. Donc on peut sélectionner des plantes industrielles qui seront plantées dans le Nord-Pas-de-Calais. Et ça, c'est tout à fait possible, bien entendu.
Donc là, on est sur des plantes, etc. Est-ce qu'on peut imaginer aussi, en milieu aquatique, des algues ou des choses comme ça, ou des choses utilisables, exploitables, au-delà des terres qui sont déjà exploitées, oui. En culture ?
Oui, donc là, il y a un très gros débat, notamment du point de vue des carburants dits de troisième génération. Donc je vous rappelle, la première génération, c'est principalement l'éthanol, comme j'ai dit à mes étudiants aujourd'hui, avec la chimie de grand-papa, je leur fais un clin d'œil s'ils m'écoutent. Donc c'est-à-dire que on fait comme la technologie pour faire du vin. La seconde génération, c'est à partir de la cellulose, une matière plus élaborée qui demande des transformations chimiques plus importantes et donc de la recherche. Et la troisième génération, je simplifie à l'extrême, la troisième génération, ce sont les composés chimiques issus des algues. Et là, il y a un gros débat. Parce qu'il y a deux types d'algues déjà, il y a les micro-algues, donc comme leur nom l'indique, elles sont toutes petites, et il y a les macro-algues, qui sont les algues qu'on voit s'échouer sur les plages. Donc les micro-algues sont riches en oléagineux, principalement des oméga-3 et des oméga-6, tout le monde en a entendu parler. On a des compléments alimentaires oméga-3 et oméga-6, compléments alimentaires dit alimentation, donc ça peut être utilisé pour l'alimentation. Mmh. Et la deuxième chose, c'est que le débat se situe sur le fait que les algues ont besoin de beaucoup de surface pour se développer. Donc on ne sait pas encore si on arrivera à faire des procédés suffisamment rentables pour collecter des algues sur de très grandes surfaces, ou alors pour avoir une vitesse de croissance des algues suffisante pour en cultiver beaucoup, pour avoir un grand rendement sur une surface donnée. Donc personnellement, je n'entre pas dans le débat parce que je ne suis pas spécialiste, mais il y a les gens qui disent que ça sera possible et les gens qui sont des farouches opposants à ce type de technologie.
Alors Franck Dumenil, pour conclure, peut-être une idée d'avenir, une proposition,
oui, je vous en prie.
Une envie. Qu'est-ce que vous souhaitez ?
Pour les bioraffineries ? Qu'est-ce que je souhaite ? Déjà, je souhaite que le projet se déroule sans encombre. Et si on me demande un idéal, Ça serait de pouvoir faire cohabiter l'alimentaire et l'industriel en même temps et pouvoir résoudre tous les besoins énergétiques mondiaux et tous les besoins alimentaires en même temps. Et j'ai une dernière remarque, c'est, je le dis dans mon cours, si on prend par la photosynthèse tous les végétaux qui sont créés dans le monde en une année, on obtient 70 fois le besoin mondial en énergie. Donc quelque part, il y a quelque chose à faire et ce rêve pourra peut-être se réaliser un jour.
Bon, en tout cas, on vous soutient. Bonne chance.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.